prier d'abord ensemble. Seigneur, nous te remercions encore ce matin parce que tu nous as rappelé ton amour pour nous, ta volonté de nous arracher à la mort, ta volonté de faire de nous un peuple qui t'appartienne, qui soit saint. Et dans ta prière de Jean 17, tu nous dis que tu nous sanctifies aussi par ta parole. Et je te prie ce matin pour que, à l'écoute de ta parole, tu rends notre cœur, notre conscience sensible, que tu nous aides à grandir dans une vie qui t'honore et qui reflète ta personne. Merci encore pour ces instants et ce moment, Seigneur. Amen. Voilà, on va poursuivre ce matin l'étude de la vie d'Élisée. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 9. Un passage, vous verrez, plein de signification symbolique, on pourrait dire. On va voir ça. 2 Rois 2, 1 à 9. À 10 même. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Voilà, on a vu lors de la dernière prédication sur Élisée quelle était la mission à laquelle Dieu destinait Élisée. Vous vous rappelez ? Dieu dit, « J'ai choisi Élisée pour être prophète à ta place. » Élisée est appelé donc à remplacer Élie. Dès qu'il a été appelé par Élie, Élisée s'est mis à le suivre et à le servir. Dans 2 Rois 3, 11, on a une description du rôle d'Élisée. Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est simplement une expression qui veut dire que Élisée assistait Élie dans son ministère de façon pratique. Alors, l'heure est maintenant venue du passage de relais entre Élisée et Élie, ou plutôt entre Élie et Élisée. Je crois qu'il y a un problème. On va l'arrêter. Ouais. Vous savez, quand il y a une course de relais, il y a un moment où les deux coureurs sont ensemble, hein, et puis tout à coup, il n'y en a plus qu'un. Et on est vraiment dans ce temps où Ils se côtoient pour la dernière fois, et après c'est Élisée qui va poursuivre sa voie, son chemin tout seul. On peut se poser la question, pourquoi, avant le départ d'Élie, il y a donc cette visite, ce parcours particulier d'Élie avec Élisée dans trois villes, vous l'aurez remarqué. Élisée part de Gilgal avec Élie, puis ensuite ils vont à Bethel, et enfin à Jéricho, et puis la dernière étape, c'est qu'ils traversent le Jourdain ensemble. On va voir que ces trois lieux ont une signification particulière en Israël. Ils sont hauts en symbole. Et ce n'est pas pour rien que Élie va prendre Élisée et que Dieu leur demande de faire ce chemin qui va de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, puis de Jéricho au Jourdain. Qu'est-ce que cela a à nous dire pour nous? C'est ce qu'on va essayer de voir. On va d'abord s'arrêter sur Gilgal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gilgal. Ce n'est peut-être pas si évident que ça. Hein. Gilgal, en fait, on trouve la mention de cette ville, de ce lieu, dans le chapitre 4 du livre de Josué. Après que Josué vient de passer le Jourdain avec tout le peuple, vous vous rappelez? Ils sont sortis du désert, ils sont devant le Jourdain, et donc ils sont prêts à entrer dans le pays. En traversant le Jourdain, Dieu demande à Josué de prendre 12 pierres du milieu du fleuve, une pierre par tribu, pour les transporter à Gilgal, en souvenir de l'œuvre que Dieu a fait pour eux. Gilgal, c'est le premier lieu sur lequel les Israélites posent les pieds après être sortis d'Égypte, après avoir traversé le Jourdain. Ils sont enfin dans le pays de Canaan. Et pourquoi est-ce que Dieu leur demande de prendre ces pierres? Eh bien, Josué le dit, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous leur direz, Israël a passé le Jourdain, que voici à pied sec. Oui, l'Éternel a asséché devant vous l'eau du Jourdain, jusqu'à ce que vous soyez passés. Tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous, jusqu'à ce que nous soyons passés. » Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Alors Gilgal, c'est en quelque sorte le lieu de témoignage de l'accomplissement de la promesse. Dieu a fait passer son peuple dans le pays de Canaan. Ils sont entrés dans une vie nouvelle. Et c'est un signe pas seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations qui étaient autour. Dans Josué, il est écrit « Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. » Le passage du Jourdain, c'était vraiment la prise de possession de la promesse que Dieu avait donnée à Israël. Et Gilgal, c'est le lieu du témoignage où enfin Israël pose les pieds dans le pays promis. C'est en même temps l'annonce pour tous les peuples qui occupent Canaan, l'annonce de la défaite, hein, parce qu'une première victoire est remportée. Mis à part les pierres qu'ils ont transportées, il y a deux choses aussi que Israël a fait à Gilgal. D'abord, Dieu a ordonné à Josué de circoncire toute la nouvelle génération qui n'avait pas été circoncise dans le désert. La circoncision, on se rappelle, c'est le signe visible de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Le signe visible dans la chair, hein, de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham et les Israélites. Gilgal sera aussi un lieu régulier de rassemblement plus tard, quand le peuple se réunit, se retrouve. C'est là que, par exemple, Saül deviendra roi, sera nommé officiellement roi. C'est dans 1 Samuel 11-15. Alors, que représente Gilgal pour nous? Gilgal représente l'entrée dans la vie nouvelle des Israélites et de nous chrétiens. C'était ça pour eux. C'est le moment où nous sommes nés de nouveau, Gilgal, où nous avons franchi la frontière du Jourdain et nous sommes enfin dans le pays promis. Cette nouvelle naissance, elle est aussi validée par deux choses, on le sait, un témoignage, les pierres qui sont dressées, qui nous rappellent que nous sommes passés au milieu de la mort, nous sommes devenus vivants. Et puis il y a un signe visible aussi de la nouvelle alliance, c'est le baptême, qui était la circoncision dans l'ancienne alliance. Donc on veut se rappeler de cela. Gilgal, témoignage de la vie nouvelle, d'une entrée dans la vie nouvelle, d'une victoire aussi sur la puissance des ennemis, puisque maintenant nous sommes dans le pays promis. On va rester là pour l'instant avec Gilgal, on y reviendra après. On va passer à la deuxième ville, Bethel. Que signifie Bethel ? Alors, pour comprendre la signification de Bethel, il faut remonter beaucoup plus loin que du temps de Josué. On va revenir au temps de Jacob, puisque c'est la première fois qu'apparaît Bethel dans la Bible. Vous vous souvenez un peu de l'histoire de Jacob ? Jacob est en fuite à un moment, vous vous rappelez, parce qu'il a volé la bénédiction paternelle à son frère Ésaü, en se déguisant, en se faisant passer pour lui. Et donc Jacob est en train de fuir, d'aller vers chez Laban, son oncle, et il s'arrête à un endroit pour dormir. Et pendant cette nuit, cette première nuit qu'il passe loin de sa famille, il reçoit une vision, la vision d'une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel, vous vous rappelez ? Et c'est là que il voit les anges de Dieu descendre et monter sur cette échelle. Et là, il reçoit la confirmation de la promesse qu'il va recevoir le pays où il se trouve, la promesse que Dieu avait faite à Abraham et Isaac. Jacob se réveille, effrayé. Il dresse un autel à Dieu, c'est la première fois où il le fait. Et il appelle ce lieu Bethel, maison de Dieu, ça veut dire. Et Dieu lui rappelle donc la promesse plus tard, lorsque Jacob s'apprêtera à quitter Laban, beaucoup plus tard, 20-30 ans après, Dieu lui dit, au moment où il part, « Rappelle-toi, je suis le Dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument et où tu m'as fait un vœu. » Bethel, c'est la maison de Dieu dans la Bible, le pied-à-terre de Dieu en quelque sorte. C'est là qu'il y a la jonction entre le ciel et la terre par cette échelle. Et la maison de Dieu, c'est à la fois Jésus, qui est le tabernacle de Dieu, mais aussi l'Église, d'après Paul. Dans 1 Timothée 3,15, « Cependant, si j'ai du retard, dit Paul à Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Bethel, qui est l'Église du Dieu vivant. » C'est là que Dieu manifeste sa fidélité et renouvelle ses promesses, la maison de Dieu. Et donc, on va retenir cette idée que Bethel, c'est le pied-à-terre de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu, c'est là où Dieu rencontre son peuple, là où il renouvelle ses promesses pour son peuple et il l'assure de sa bénédiction. On va passer à Jéricho. Jéricho est plus facilement connu que Bethel, hein, puisque c'est la première ville conquise par le peuple de Dieu dans le pays de Canaan. Et vous savez de quelle façon cette ville a été conquise ? Ce n'est pas par les armes, c'est par la puissance de Dieu. Les Israélites n'ont rien fait, sinon tourner autour de Jéricho pendant 6 jours en sonnant de la trompette. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Le peuple poussa alors des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. La muraille de la ville s'écroula sur elle-même. Jéricho, c'est le symbole de la puissance de Dieu sur les ennemis d'Israël. La Bible nous rappelle que Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et Jéricho, c'était aussi pour le peuple de Dieu un signal, en tout cas, pour lui dire que le Dieu qui était avec lui allait triompher de tous ses ennemis. Jéricho est tombé tout seul. Ce n'était pas le combat d'Israël, c'était le combat de Dieu. Et on se souvient que lorsque Dieu a donné à Josué l'ordre d'aller, il lui a dit « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai ». Jéricho nous rappelle que Dieu nous appelle à une vie de victoire et pas de défaite. Et bien sûr, cette victoire n'est pas acquise par nos propres forces, mais simplement si nous entrons dans l'obéissance de la foi, nous suivons Dieu, eh bien la victoire nous est acquise. Gilgal nous rappelle notre entrée dans la vie nouvelle, Bethel, la maison de Dieu, et Jéricho, la victoire de Dieu sur ses ennemis. Alors pourquoi est-ce que Élie fait le tour de ces trois lieux avec Élisée? Mais je pense qu'il veut lui montrer ce que sont devenus ces endroits depuis le temps où Dieu a donné ses promesses à Gilgal, à Bethel et à Jéricho. Et ça pose aussi pour nous la question, qu'est devenue la vie nouvelle en nous? Dans quel état sommes-nous en tant que chrétiens? On va voir que tout le ministère d'Élisée aura pour but de relever Israël, parce que Israël est tombé bien bas. On va voir d'abord Gilgal. Qu'est devenu Gilgal? On a vu que Gilgal est dans le livre de Josué. La prochaine mention de Gilgal, on la trouve dans le livre des Juges. Juges 2, verset 2. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Josué est mort, les tribus n'ont pas réussi à conquérir tout Israël et elles doivent continuer la conquête, tout le pays de Canaan. Mais alors que les Israélites devaient combattre leurs ennemis, ils ont commencé à pactiser avec eux, à devenir amis avec les populations qui étaient dans Canaan. Plus que cela, ils ont commencé aussi à s'intéresser à leur divinité. Alors Dieu envoie, il est dit, dans Juges 2, verset 2, un prophète qui part de Gilgal. Qui part de Gilgal. Et il dit à Israël, « Vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants du pays. Vous démolirez leurs autels. » Il parle de la part de Dieu. « Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela ? » Gilgal, c'est le lieu où on se rappelle le pacte, l'alliance que Dieu a fait avec nous. Et nous sommes passés par la mort, nous entrons dans une vie nouvelle. Mais dans quel état se trouve Israël au temps d'Élie ? Ce qui a commencé par des compromis avec les habitants du pays est devenu une idolâtrie absolue. C'est Baal qui règne en Israël. L'Éternel et ceux qui sont fidèles à l'Éternel sont persécutés. Je crois que Dieu veut simplement montrer à Élisée, au moment où il fait ce déplacement, dans quel état se trouve le peuple de Dieu. Et ça doit nous poser la question, après des années de vie chrétienne, dans quel état sommes-nous? Est-ce que nous sommes toujours, comme on l'a dit ce matin, un peuple consacré à l'Éternel, saint, mis à part pour lui? Ou il y a dans notre vie des autels, une idolâtrie, des choses que nous sacrifions à d'autres dieux, à des passions qui n'ont rien à faire avec notre vie en Christ? Comment avons-nous poursuivi notre vie chrétienne après l'avoir commencée? C'est la question que nous devons nous poser en lisant ce texte. Gilgal est devenu vraiment un lieu, en tout cas le prophète est parti de Gilgal pour le rappeler. Voilà ce que Dieu avait pour vous. Vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été sanctifié. Et vous êtes entré dans une vie nouvelle, vous pouvez vivre de la parole et des promesses de Dieu. Bethel, qu'est devenu Bethel au temps d'Élie ? Jéroboam, qui est le premier roi qui a finalement entré dans l'idolâtrie, hein, vous vous rappelez, il y avait Saül, David, Salomon. Après, le royaume s'est divisé. Et au temps de Jéroboam, Jéroboam avait un problème parce que les Israélites qui étaient sous son autorité allaient quand même adorer l'Éternel à Jérusalem. Et il s'est dit, je vais perdre mon royaume parce que si les gens retournent à Jérusalem, ils vont rallier Roboam. Il a donc décidé de fabriquer deux veaux d'or, il est dit, en disant aux Israélites, « Cela fait assez longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, les veaux d'or. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, la maison de Dieu, et l'autre à Dan, des deux extrémités du pays. Qu'est devenu Bethel ? Au lieu d'être la maison de Dieu, c'est devenu la maison de l'idolâtrie. Sous le couvert du nom de Dieu, parce qu'il ne dit pas « vous allez adorer une autre idole », « voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte ». C'est une caricature du vrai Dieu. Eh bien, il installe un culte concurrent à l'Éternel, sous le nom de l'Éternel, mais avec une idole. Jéroboam a transgressé le second commandement de la loi de Moïse, qui ordonne de ne pas représenter Dieu sous quelque forme que ce soit pour l'adorer. On peut se dire, est-ce que ça peut nous arriver dans l'Église ou pas ? Eh bien, l'apôtre Paul le dit. Dans 2 Corinthiens 11, 4, il dit, si quelqu'un, il reproche cela aux Corinthiens, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez fort bien. Est-ce que nous prêchons toujours dans l'Église le Jésus de l'Évangile ? Le Jésus qui doit être le Seigneur de notre vie ? Ou notre Jésus est-il un Jésus taillé sur mesure ? C'est cela. L'idolâtrie, comme les idoles. Un Jésus qui s'adapte à la mentalité du siècle ou qui est bien commode pour notre péché. L'évangile que nous annonçons est-il l'évangile de la justice de Dieu ? Ou est-ce que nous le dénaturons au profit d'un évangile qui accueille tout le monde tel qu'il est, sans qu'il ait besoin de repentance et de rupture avec le péché ? Un évangile de la prospérité, on le sait. Un évangile au service des désirs humains. Dieu est là simplement pour nous faire réussir dans la vie, pour assurer notre bonheur, notre épanouissement. L'évangile de Jésus nous appelle à renoncer, comme on l'a vu, à nos convoitises, aux péchés, et à vivre et à marcher en nouveauté de vie. Nous sommes habités par un Esprit Saint, l'Esprit Saint de Dieu. Et nos louanges n'ont de valeur que si nous vivons dans la communion avec lui, bien sûr. Qu'est devenu Bethel dans le monde ? Qu'est devenue l'Église ? C'est la deuxième question. Et malheureusement, Élisée a dû se rendre compte de l'état de Bethel. Mais on n'a pas encore tout vu, puisqu'on arrive à Jéricho. Et il y a une chose que Dieu avait faite, donc il a détruit Jéricho, mais il y a un ordre qu'il a donné à Josué, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Josué 6, 26, Josué a dit « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho ». Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Maudit soit celui qui reconstruit Jéricho, quelque chose que Dieu avait détruit. Au temps d'Élie, c'est Intéressant parce que si vous lisez 1 roi 16, 34, c'est la fin du chapitre 16. Après, il y a le chapitre 17. Le chapitre 16 se termine par la reconstruction de Jéricho. Le chapitre 17 commence par l'appel d'Élie. C'est comme si Dieu disait, on est arrivé au sommet de la désobéissance. Israël reconstruit ce que moi j'ai détruit, ce que j'ai maudit. À son époque, donc au temps d'Élie, un certain Hiel de Bethel, encore Bethel, reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué. On a chanté tout à l'heure, nous sommes tombés si bas, Israël était tombé. Ne pouvait pas tomber plus bas que de reconstruire ce que Dieu avait détruit. C'est comme si Israël annulait complètement l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu a suscité Élie, le prophète de la repentance. C'est vraiment le prophète de la repentance, Élie, qui appelle le peuple. Il est seul. Mais son message, c'est revenez à Dieu, revenez à Dieu. L'Éternel est le seul Dieu. Se peut-il que nous redevenions ce que nous étions sans Christ, que nous commencions à reconstruire ce que Dieu a détruit en nous? L'histoire d'Israël montre que la déchéance, l'éloignement du peuple de Dieu peut aller jusqu'à ce point-là. Je crois que si Dieu a amené Élie et Élisée dans ce périple, c'était pour faire en quelque sorte un audit de la situation spirituelle d'Israël. Élie voulait rendre conscient Élisée de l'état dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. Et on voit que à trois reprises, Élie lui demande, est-ce que tu veux quand même venir? Est-ce que tu es prêt à voir jusqu'au bout la vérité sur la situation? Il met à l'épreuve sa détermination. Élisée voit Gilgal. Élie lui dit, je vais à Bethel, il n'aurait pas été obligé de lui dire. Est-ce que tu restes là? Non, je vais aller avec toi à Bethel. Je vais ensuite à Jéricho. Eh bien, je veux aussi venir avec toi à Jéricho. Élisée doit être conscient de la situation dans laquelle se trouve le peuple avant de commencer son ministère. Et la dernière étape, c'est la plus terrible, je trouve. Puisque, ensemble, ils repassent le Jourdain, vous voyez, dans le sens inverse de Josué. Ils sortent du pays. C'est comme pour dire, tout est à refaire. Tout ce qui avait été fait, toutes les victoires qui ont été remportées, se sont transformées en défaites. Tout est à refaire. Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays promis, mais ils sont dans la même situation que dans le désert. C'est ça qu'il veut lui montrer. Le but d'Élie, c'est vraiment de redonner à Élisée la conscience du défi qui est devant lui. Et avant de partir, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Une demande, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé au ciel. Élisée répondra, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Pourquoi est-ce qu'il fait cette demande? C'est aussi une bonne nouvelle pour nous. Si on ne connaissait pas l'humilité d'Élisée, on pourrait se dire, c'est sans doute de l'orgueil ou de la vanité. Moi, je crois qu'Élisée a compris que si Élie n'a pas réussi à ramener le peuple, il lui faut plus qu'Élie. Élie était le prophète de la repentance, mais il n'avait pas la capacité de régénérer Israël. Pour que le ministère d'Élisée réussisse, il lui fallait une portion de l'esprit qui soit plus grande que celle d'Élie. Je rappelle que Élisée et Élie sont des symboles aussi de Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Le peuple est venu, mais le cœur n'était pas changé. Jésus est venu et Jean-Baptiste lui a dit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient après moi, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le seul qui a le pouvoir de changer le cœur, de changer les dispositions, d'éradiquer l'idolâtrie, c'était Jésus qui est symbolisé ici par Élisée. Dans Jean 3, 34, il nous est dit que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure, un peu comme Élisée. Élisée a succédé à Élie, Jésus succède à Jean-Baptiste avec une portion beaucoup plus grande de l'Esprit de Dieu. Alors, quelle conclusion pour nous? Quand on prêche l'Évangile, on dit que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Sauver les pécheurs, ce n'est pas simplement leur accorder le pardon, mais c'est les délivrer du péché, leur donner d'entrer dans la vie nouvelle que Dieu a préparée pour eux. Il veut nous rendre semblables à lui, il veut nous donner sa propre nature. Mais la mission de Jésus ne s'arrête pas simplement aux pécheurs qu'il rencontre dans la rue. Il est là aussi pour restaurer et guérir l'Église de ses fautes et de ses désobéissances. La puissance qui habite Jésus est celle qui habitait, enfin la puissance qui habite Jésus, oui, est celle qui habite Élisée aussi. Elle est là pour restaurer. C'est une puissance de résurrection qui va être mise en œuvre. On verra que Élisée est habité par cette puissance de résurrection. Quel que soit l'état spirituel dans lequel nous sommes, la puissance de Jésus est capable de nous affranchir, de faire de nous le peuple qu'il a désiré que nous soyons. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas simplement pour les pécheurs qui viennent à Dieu pour la première fois, elle est aussi pour nous, le peuple de Dieu. Dieu peut nous donner d'entrer dans notre vocation d'être un peuple saint pour lui. La Bible dit que personne parmi vous ne se prive de la grâce de Dieu. Jésus est là pour être notre restaurateur, celui qui répare nos vies cassées, nos vies livrées à la corruption, au péché. On peut venir à lui sans crainte d'être rejeté. La question, c'est juste, est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous le voulons? Et ce matin, on s'est pas consulté, mais j'ai bien aimé ta présidence. Il faut simplement qu'on soit honnête avec lui. Celui qui marche dans les ténèbres ne peut pas être restauré. Il faut venir à la lumière. Que Dieu nous aide à nous approcher de Jésus, à chercher auprès de lui la force dont nous avons besoin pour être le peuple qu'il veut que nous soyons. Voilà, on va prier encore.